Laissez-moi deviner. Vous avez un collègue qui vous tombe sur les nerfs. Ça peut être une question de personnalité, parfois c'est une histoire d'habitude de vie, mais quelque part dans votre organisation, quelqu'un fait quelque chose qui vous énerve. Je suis Annie Boilard, spécialiste du leadership, du monde du travail. Je travaille avec la super équipe du réseau Annie RH et aujourd'hui, on s'interroge sur comment gérer, comment interagir avec quelqu'un au travail qui nous tombe sur les nerfs. Il y a mille et une raisons pour lesquelles quelqu'un peut tomber sur les nerfs. Il y a des grandes catégories pour ça. D'abord, la grande catégorie des bruits. Donc, quelqu'un qui fait du bruit, peut-être en marchant, en riant, en mangeant. Peut-être c'est avec son crayon lorsqu'il travaille à côté de vous. Peut-être c'est en tapant du pied, peu importe. Donc, la catégorie des gens qui font du bruit. C'est souvent quelque chose qui est irritant pour les collègues. Il y a une autre grande catégorie championne, tout ce qui est relié aux odeurs. Que ce soit les odeurs de lessive, que ce soit les odeurs de parfum, par exemple, ou encore les odeurs de lunch réchauffées sur l'heure du dîner. Tout ça, une autre grande catégorie. Il y a aussi les habitudes de travail, les habitudes de vie. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui vous diront, moi, les gens qui rentrent le matin, puis qui ne disent pas bonjour à personne, moi, ça m'énerve. Puis il y a aussi des gens qui vous diront, c'est moi le matin, là, quand je suis en train de travailler, puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis qui me dérange pour me dire bonjour, ça m'énerve. Hein? On est en train de se rendre compte que les comportements qui nous énervent, c'est beaucoup tributaire à nous. C'est-à-dire, le même comportement peut être indifférent pour quelqu'un, harassant pour la même personne, ou au contraire, positif pour une autre personne. Donc, il y a de moi. Là, la personne qui est énervée dans l'histoire, c'est moi. Donc, ça parle de moi, cette histoire-là. Qu'est-ce que je peux faire? Comment vais-je gérer ça dans l'action? D'abord, deux choses que je ne ferai pas. Bon, beaucoup dans les entreprises ont l'idée de se dire, on va se doter d'une politique, mur à mur, pour gérer ces cas d'exception, de façon à ce que ce soit plus facile d'expliquer à quelqu'un que, ben non, personne ne mange de poisson sur l'heure du dîner. Nous avons une règle à cet effet. On ne peut pas faire chauffer des mets à base de poisson. Bon, alors, c'est souvent un réflexe parce que ça facilite l'administration puis l'uniformité de l'application des règles pour tout le monde que de se donner de politique, des guides en la matière. L'enjeu, c'est que ça vient vraiment encadrer toute la population pour, à l'origine, des cas d'exception. Alors, on est mieux de gérer les exceptions avec les personnes en cause que de faire des processus mur à mur. C'est-à-dire, c'est pas parce que Paul mange un poisson à l'occasion qui est très odorant que plus personne ne pourra manger 365 jours par année d'aliments qui sont agréés de poissons ou de fruits de mer. Donc, ça, c'est un truc qu'on ne fera pas. La deuxième chose qu'on ne fera pas, parler de ce qui nous déplaît à tout le monde, sauf à la bonne personne. Tout le monde, parfois c'est aux collègues, parfois c'est à mon patron, parfois c'est aux ressources humaines. Et là, souvent, ce qu'on va me dire en premier, c'est « Ben, lui as-tu dit que ce comportement-là était dérangeant pour toi? » Et évidemment, si la réponse est négative, ben, je vais retourner à la case départ. Je vais devoir le lui dire. Alors, comment je fais ça? Comment puis-je adresser avec doigté, sans créer de conflit et d'animosité, un comportement qui est dérangeant pour moi de la part de quelqu'un d'autre? C'est plutôt simple. Une approche en trois étapes, inspirée de ce qu'on appelle la communication consciente ou plusieurs autres apologies similaires. Donc, trois étapes qui consistent à 1. Nommer ce que j'observe, les faits. Deuxièmement, nommer l'impact que ça a sur moi. Et troisièmement, chercher une quête en lien avec l'impact que ça a sur moi. Donnons-nous un exemple. Paul dans mon organisation. Paul, c'est un petit chanteur du dimanche, il siffle, puis il est toujours de bonne humeur, fait qu'il est toujours en train de chantonner ou de siffler une chanson. Puis en soi, c'est plutôt positif, hein, c'est légal à l'atmosphère de travail, puis ça ne dérange pas personne. Sauf que, souvent, Paul retourne dans son répertoire préféré, et lui, ce qu'il aime, c'est les chansons de Noël, 12 mois par année. Donc, moi, là, rendu au mois de juillet, quand tout est vert partout, là, petit papa Noël, ça me tombe sur les nerfs. Comment puis-je faire ça? Donc, je vais aller voir Paul. Paul, j'observe que tu chantes régulièrement, tu siffles, Puis somme toute, là, c'est positif, on aime ça t'entendre, tu chantes bien. Mais j'observe aussi que tu chantes beaucoup des cantiques de Noël. Puis moi, je dois dire que je trouve ça déstabilisant. Je trouve ça déstabilisant à ce temps-ci de l'année d'avoir en tête des chansons de Noël. Puis même, ça vient miner mon esprit des fêtes quand finit par arriver la période des vacances de Noël. Donc, je réitère, hein, j'observe que l'impact que ça a sur moi, je trouve ça déstabilisant, ça ruine mon temps des fêtes à l'arrivée du temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on observe que la recommandation, c'est pas de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu arrêtes de chanter Paul, mais bien qu'est-ce qu'on peut faire pour que je ne sois pas déstabilisée ainsi. Est-ce que ça fonctionne à tout coup? Non. Mais en général, ça va avoir un impact positif sur l'autre personne qui va être intéressée à essayer de m'aider. À faire attention. Des fois, j'observe des gens qui utilisent l'humour pour adresser ces situations-là. Quelque chose du type, « Ben voyons, Paul, t'as-tu le bouton collé, toi, là, là, encore d'un cantique de Noël à ce temps-ci de l'année? » Bien. « Ben voyons, Paul, là, t'as encore ce petit papa Noël, toi, là, là, je pense qu'il t'en a manqué des bouts. » En espérant que Paul comprenne que je suis en train de lui dire entre les lignes que ça m'énerve son choix de cantique ou de chanson. Bon, ça fonctionne parfois, mais souvent, c'est pas un message clair qui est communiqué à l'autre personne. Donc, si hein, je vais voir mon patron, les ressources humaines, puis qu'il me dise « Lui as-tu dit? » Ben, si je dis oui, on me demandera « Que lui as-tu dit? » Et si je réponds « Ben, je lui ai laissé comprendre que... » Ben, on va me ramener à ma responsabilité, puis on va me dire « Ben non, c'est pas clair, il faut que tu le lui dises clairement. » Donc, avec une personne qui nous énerve, on prend le temps d'en parler avec la bonne personne, avec doigté, avec diplomatie. On s'assure que ce soit discret comme échange. On parle de soi, on n'attaque pas l'autre, on crée un climat de confiance. Puis généralement, ça va être suffisant pour que la situation évolue. Il est possible qu'on ait besoin de répéter? Certainement. Généralement, on peut s'attendre à répéter 2-3 fois par année. Maintenant, s'il faut que je le répète 3 fois par jour, là, il y a un souci. Il y a un souci de fréquence, puis là, je vais interpeller d'autres personnes pour venir m'aider dans cette quête-là. Possiblement, à nouveau, patron, ressources humaines, propriétaire d'entreprise, si c'est dans une petite PME. Gardons en tête que parfois, c'est moi la personne tannante pour quelqu'un d'autre. C'est moi qui énerve quelqu'un. Des fois, je m'en rends pas compte. Ou encore, des fois, je me dis, mais voyons, ça se pourrait-tu que ça l'énerve? J'ai comme un petit doute en tête. Même chose, si c'est moi qui suis en cause, prendre le temps d'en parler avec l'autre personne. Donne un exemple, hein? Paul, il vient me poser des questions, puis moi, par professionnalisme, par souci de donner des réponses exactes, je prends le temps de poser plusieurs sous-questions à Paul avant de répondre à sa question. Puis des fois, je le vois, tu sais, Paul, il lève les épaules, là, ça fait... où il regarde sa montre, pour me faire comprendre que voyons, c'est donc bien long, je veux juste savoir si tu y as dit ou si tu y as pas dit. Alors, quand j'ai l'impression que c'est peut-être moi qui harasse quelqu'un, je vais faire la même chose, je vais aller voir Paul, je vais lui nommer. Je vais dire, mon intention, c'est vraiment de te donner des bonnes réponses, je veux pas t'induire en erreur. Mais j'ai l'impression que mon impact est autre. Par exemple, j'ai l'impression que je te tombe un petit peu sur les nerfs. Comment tu le vis, toi? Comment tu le reçois, ça? Comment tu aimerais qu'on agisse ensemble? Tout simplement. Des gens qui nous tombent sur les nerfs, il y en a aujourd'hui puis il y en aura toujours. L'idée d'essayer de les éviter ou encore de laisser comprendre que, d'en parler à tout le monde en espérant que le message se rende à eux, ce ne sont pas des stratégies très efficaces dans l'action. Donc, on se recommande à tous de prendre un petit peu notre courage à deux mains puis d'adresser ces situations avec la bonne personne.